Chapitre 47. Monsieur de Carquebut avait une façon de rire tout à fait originale. Lorsqu'on lui racontait une histoire touchant des étrangers, il en riait rarement, si drôle qu'elle fût. Au contraire, lorsque c'était lui qui faisait un récit, il s'arrêtait à chaque instant pour pousser de formidables éclats de rire. De même, il riait encore largement lorsque, dans un projet en discussion, il se voyait un rôle à jouer. Car, par cela seul qu'une chose le touchait personnellement, elle prenait aussitôt à ses yeux une importance considérable. Quand Clémence lui dit qu'il aurait à s'entendre avec le capitaine Beaujonnier, il partit d'un éclat de rire aigu qui secoua les vitres du pavillon. « C'est le capitaine qui me donnera cette preuve » s'écria-t-il. « Cette preuve qui doit me restituer la fortune d'Arthur et par là assurer notre mariage. Ah, c'est trop drôle! C'est lui? Il est bon enfant !» Et les rires recommencèrent. Mais tout à coup, s'interrompant, « Tu es un ange » s'écria-t-il, « un ange !» Mais Clémence était si bien habituée à s'entendre dire qu'elle était un ange qu'elle ne parut pas sensible à ce compliment. « Je ne sais pas, continua-t-elle, si après que vous aurez vu le capitaine, vous trouverez qu'il est si bon enfant, car je le crois disposé à ne pas vous donner cette preuve pour rien. Quand vous m'avez demandé à vous aider à prouver au marquis que Denise n'était pas sa fille, je vous ai tout d'abord refusé mon concours. Mais bientôt, j'ai réfléchi que ce que vous prétendiez contre la naissance de cet enfant pouvait être vrai. Parbleu, si c'était vrai! J'ai l'intuition de ces choses-là, moi. » Avec une de ces femmes comme Emma la Jolée, qui sont assez malheureuses pour ne mettre aucune fidélité dans leurs sentiments et pour se faire un jeu de l'amour, car il paraît qu'il y a des femmes ainsi. « Mais oui, dit-il d'un air entendu, il y en a. » Avec une de ces femmes, vos soupçons avaient une certaine apparence de raison, et alors ce n'était point une mauvaise action d'éclairer le marquis. C'en était une louable. C'était empêcher une étrangère de dépouiller des héritiers légitimes. Très bien, c'est cela même. Dans ces conditions, je pouvais donc, par esprit de justice et aussi par sympathie pour vous, faire ce que vous demandiez. J'écrivis donc à mon mari dans ce sens, car à quel autre m'adresser ? Précisément, mon mari se trouvait heureusement placé pour faire des recherches de ce genre que ses relations lui rendaient assez faciles. Au bout de quelque temps, il me répondit qu'il avait entre les mains la preuve que Denise n'était point la fille du marquis. Il a dit la preuve. Il a écrit la preuve. Alors je lui demandai de me l'envoyer. Mais il s'y refusa, me disant que cette preuve avait une valeur considérable pour certaines personnes et qu'il ne serait pas assez simple pour la donner gratis. Quand je vous ai dit l'autre jour que votre mari était un chenapan, vous vous êtes fâché. J'avoue que j'aurais mieux aimé plus de générosité et voilà pourquoi, précisément, je ne vous ai point parlé de cette preuve. Mais l'annonce du mariage de Denise avec votre neveu ne me permet pas de rester plus longtemps. Il y a urgence à partir pour Paris et à vous entendre avec le capitaine, à moins que vous ne préfériez voir ce mariage se faire. Il ne se fera pas. Cela dépend de la négociation que vous allez entreprendre. Je vais vous donner une lettre pour le capitaine. Surtout, expliquez-lui bien que je ne suis pas riche présentement et que c'est une éventualité que j'achète. Si par hasard je mourais avant le marquis, j'en serais pour mon argent déboursé aujourd'hui. Il profiterait à votre neveu. Je me fiche bien de mon neveu et ce n'est pas pour lui que je dépenserai deux sous. D'un autre côté, mon petit ange, n'oubliez pas que l'argent que vous épargnerez aujourd'hui, c'est le vôtre. Ménagez-le. Ce que vous arracherez à votre mari présent, vous le trouverez plus tard chez votre mari futur. Car je serai votre mari, ma chère petite poulette. Je vous l'ai promis et vous verrez que je suis un homme de parole. » Elle écrivit à son mari une lettre telle que la désirait M. de Carquebut, car elle savait que celui-ci n'aurait pas la discrétion de la remettre à son destinataire sans l'avoir lue auparavant. Mais en même temps, elle en écrivit une seconde qu'elle confia à la poste et dans laquelle elle fut plus explicite et plus franche. « Je t'ai ménagé, il y a quelque temps, une bonne fortune dont, je l'espère, tu as conservé un agréable souvenir, si tu n'en as pas su conserver autre chose, ce qui me paraît, hélas, à redouter, étant donné le caractère de mon pauvre cap. Aujourd'hui, je t'en prépare une autre qui peut encore devenir productive entre tes mains si tu sais en tirer parti. Tu verras ainsi que je pense à toi et que je ne me ménage pas pour te venir en aide. M'en es-tu reconnaissant, au moins? Et te dis-tu quelquefois que tu as une petite chatte qui s'extermine pour son coquin de mari, tandis que celui-ci mène à Paris une vie de chanoine, mangeant bien, buvant bien, et le reste? Enfin, c'est notre rôle à nous autres faibles femmes de nous dévouer pour des vauriens qui n'ont qu'à se laisser aimer et choyer. Mais assez de réflexions philosophiques si je veux que tu me lises jusqu'au bout. J'arrive donc au fait. Dans cette lettre, chargée s'il te plaît, car il ne faut pas qu'elle se perde, tu en trouveras une autre que tu reconnaîtras pour celle que tu m'as envoyée il y a quelques mois, celle de Balbine. À ce moment, je te l'ai payée ce qu'elle valait, au moins pour moi. Mais depuis, elle a augmenté de valeur, et bien que strictement j'ai le droit de la revendre le prix que j'en trouve, profitant de cette plus-value, je ne veux pas avec toi agir ainsi. Je te la retourne donc, et en même temps, je t'adresse un acquéreur sérieux. Si tu es en état de me restituer ce que j'ai déboursé, tu le feras, sinon tu attendras des temps meilleurs, je m'en rapporte à ta bonne foi. Mon acquéreur n'est autre que M. Artème de Carquebut, de qui je t'ai plusieurs fois parlé, le cousin du marquis et son héritier, pour le cas où Denise serait écartée. Tu comprends dès lors de quel prix cette lettre est pour lui. Cependant, ne la lui fais pas trop chère, d'abord parce qu'il serait homme à la refuser si tu excédais certaines limites raisonnables, ensuite parce qu'il ne pourrait pas te la payer, son avoir se composant uniquement de quelques milliers de francs qu'il a péniblement amassés en tondant sur les marchés de bois et sur les baux que le marquis lui laisse faire. Ne parle donc pas pour ta demande des millions du marquis, mais seulement des billets de 1000 de ton acquéreur. Sur ce, en avant, mon vieux cap, et bonne chance au galop. Si tu n'es pas content de ta petite chatte, tu seras bien difficile et tout à fait indigne de l'affection de ta Clémence. Comme il fallait que cette lettre arrivât à Paris avant M. de Carquebut, Clémence s'arrangea pour faire manquer le train de nuit à celui-ci. Ce fut donc le lendemain, à 3 heures, qu'il se présenta dans les bureaux de la fortune publique. « Si c'est pour souscrire, dit un garçon de bureau en venant au-devant de lui, dépêchez-vous, vous n'avez plus que quelques minutes, et demain il sera trop tard. » Mais M. de Carquebut, humilié d'être pris pour un souscripteur, il ne s'embarquait pas dans ces balançoires-là, répondit d'un ton bourru qu'il voulait voir le capitaine Beaujonnier, et tout de suite. « Monsieur Beaujonnier est en conseil, il ne peut recevoir personne. » « Et à quelle heure finit-il ce conseil ?»«
5 heures,
6 heures. »« Et vous croyez que je vais attendre jusque-là »«
Comme monsieur voudra. »«
Pouvez-vous remettre une lettre à monsieur Beaujonnier ?»«
C'est difficile. »«
Mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas ? Ça dépend de la gratification, hein ?»
Le garçon se mit à sourire.
Alors M. de Carquebut, ayant longuement fouillé dans la poche de son gilet, en tira une pièce de 2 francs.
« Moyennant cela, dit-il en montrant sa pièce d'un air princier.
« C'est impossible, répondit le garçon avec mépris.
« Est-ce que vous êtes obligé de partager avec votre maître ?»«
Monsieur !»«
Allons, prenez-moi cette pièce de 100 sous et portez cette lettre plus vite que ça. Vous voyez bien que je ne suis pas un jobard. » « Je le connais, votre directeur. »
Et le poing sur la hanche, il se mit à siffler un air de chasse, tandis que le garçon portait la lettre de Clémence au capitaine. Au bout de 10 minutes, celui-ci arriva à pas pressés, les cheveux rejetés en coup de vent, en homme accablé d'affaires.
« Monsieur de Carquebut, demanda-t-il sans saluer.
« Lui-même. »
La lettre de ma femme, impossible traiter affaire en ce moment, trop pressée, demain si vous voulez. Depuis qu'il était devenu un financier, il avait adopté ce style télégraphique avec les clients qu'il voulait éblouir ou, plus justement, selon son langage, épater. « Votre heure, continua-t-il avec volubilité. 5 heures du matin, si vous voulez, nous serons tranquilles. » Si M. de Carquebus n'était pas ébloui, il était au moins étonné. « Quel blagueur !» se dit-il en examinant le capitaine. « Décidé, continua celui-ci, qui avait tiré son carnet pour écrire l'heure du rendez-vous convenu. « Je suis pressé aussi, dit M. de Carquebus. Demain, il serait trop tard. « Aujourd'hui, pas minute libre. « Vous dînez bien ?»« Juste, bonne idée. Me ferez honneur dîner avec moi. « C'est vous, au contraire, qui me ferez l'amitié de partager mon dîner. « Comme vous voudrez, fais jamais politesse, niaiserie et perte de temps. « C'est mon avis. « Votre heure ? « La vôtre. « 7 heures, alors. « Où ? « Palais Royal, dit M. de Carquebus, qui avait des habitudes d'économie. « Pas possible, répliqua le capitaine en secouant la tête. « Estomac délicat, mange pas dans ces endroits. « Café riche, café anglais, sors pas de là. « Café riche, alors. « Va, me trouverez au café, à l'absinthe. » Et sans un mot, sans un signe de main, il s'éloigna à grands pas. « Voilà un chenapan, se dit M. de Carquebus en sortant des bureaux de la fortune publique, qui ne va pas être commode. Si je ne le grise pas, il me coûtera cher. « Voilà un vieux dur à cuire, se disait en même temps le capitaine, qui ne sera pas aussi tendre à plumer que le marquis. Enfin, on en aura ce qu'on pourra. » Et rentrant dans son cabinet, où personne ne l'attendait, il se mit à fumer une pipe pour gagner l'heure de l'absinthe.